Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner.
Bonjour à tous, je suis avec Christophe Marais, qui est le directeur marketing B2B d'Adobe, je ne me trompe pas.
Allez, c'est ça. On va
dire ça comme c'est ça. Pas ça?
Si, si, c'est ça.
On s'est rencontrés, je crois, en 2012. Vous m'aviez demandé de faire une conférence pour vous, de mémoire.
Ouais, c'est tout à fait ça.
Donc, c'était il y a 5 ans, déjà.
C'était il y a 5 ans. C'est une toute première conférence qu'on a organisée à destination du marketing.
Exactement. Et donc, on est dans les bureaux d'Adobe en France. Et en fait, j'ai voulu te voir, parce que je pense que vous avez une expérience... assez exceptionnel, d'un groupe de 14 000 personnes.
Alors aujourd'hui, on est 17 000.
17 000.
On a encore grossi.
Qui a réussi à faire un shift business hyper important. Donc quand on parle de transformation digitale, souvent on parle donc, de la transformation culturelle, comprendre le digital, à quoi ça sert, etc. Et puis la deuxième étape, souvent, c'est la transformation de business. C'est-à-dire, ben, il faut qu'on fasse un mouvement important et Dieu sait que c'est compliqué, qu'il y a beaucoup de grosses entreprises qui se sont plantées dans ce domaine. Et puis, en fait, souvent, quand on voit des entreprises, des grosses entreprises, ils vous disent « Oui, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un paquebot à transformer, quel que soit le nom du groupe. » En tout cas, des groupes de cette taille-là. Et Adobe, vous n'avez pas vraiment eu le choix et vous l'avez fait avec un énorme succès. Donc, je trouve que, du coup, il y a énormément à apprendre de cette expérience, qui est un challenge pour beaucoup de marques, quand j'ai interviewé Emmanuel Vivier donc du Hub Institute ou Patrick Hofstetter qui était l'ancien CDO donc directeur digital de Renault, ils disent tous les deux, bah franchement j'ai pas un bel espoir pour les boîtes du CAC 40 parce qu'en fait elles ne se transforment pas assez vite, elles comprennent pas le business, elles comprennent pas comment ça transforme, etc. Donc c'est en ça je trouve ça intéressant. Donc est-ce que tu peux expliquer le mouvement qui s'est effectué chez Adobe? Comme au début, donc vous vendiez des logiciels Photoshop, Acrobat, Lightroom. Enfin, il y en a
pas à l'époque.
À l'époque, Lightroom n'existait pas. Mais donc vous vendiez des CD, donc des logiciels qui étaient mis à jour une fois par an, c'est ça, hein, sur des CD. Et vous avez transformé ça, vous avez vendu ça sur le cloud, donc avec une mise à jour en permanence. Et alors ça peut paraître être un mouvement qui est assez léger mais qui est en fait assez profond en termes de structure et de business. Est-ce que tu peux expliquer le mouvement?
Alors ça semble léger mais effectivement c'est un changement vraiment en profondeur. En profondeur d'une part parce que faut revenir un petit peu à l'époque.
Ouais.
On va parler un petit peu façon ancien combattant. 2005, 2007, il y a eu de gros changements, des grosses transformations. Le web devient omniprésent, le mobile commence à naître avec le lancement de l'iPhone, qui va radicalement changer la manière que les marques vont s'engager avec leurs consommateurs. Et donc la fonction marketing doit se réinventer. D'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est qu'on voit dans chaque décennie, il y a des transformations de grands métiers. Parvenir dans le détail, mais dans les années 80, c'était le bureau d'études. Dans les années 90, c'était plutôt la partie supply chain, logistique, finance, etc. Et le début des années 2000, en fait, marque cette grande transformation que doit opérer la fonction marketing. À cette époque-là, comme tu le disais, nous, on vendait effectivement des produits créatifs à destination des fonctions créatives, des photographes, des designers, dans un mode plutôt licence. Ça veut dire que bah, tu achetais ta boîte ou ta licence, tu l'installais et ton logiciel, en fait, il était à toi. Et il restait à toi, ad vitam aeternam.
Exactement.
Et donc, il ne bénéficiait pas forcément des dernières nouveautés, des dernières algorithmies, des derniers formats, des dernières technologies pour pouvoir le faire évoluer. Et à ce moment-là, en 2005, 2007, dans les premières parties en fait, du millénaire, il y avait énormément de nouvelles technologies qui arrivaient. Ça se chamboulait dans tous les sens. Et donc, les créatifs, les fonctions créatives avaient besoin en fait, d'être toujours à la page. Elles ont manifesté un besoin très fort en fait, de pouvoir avoir une mise à jour régulière de ces logiciels.
Ouais.
Comme tu le disais, nous, on lançait en fait, une nouvelle version tous les ans et demi, à peu près.
Ouais.
D'accord. Ce qui veut dire qu'il fallait attendre un an et demi avant de pouvoir bénéficier d'une nouvelle version et donc, à ce moment-là, de racheter une nouvelle licence.
Ouais.
La décision a été prise en fait de changer ce modèle-là à partir de, on va dire, entre 2005 et 2009. En 2009, fait important, on rachète une société qui s'appelle Omniture. Omniture, c'était une société qui était leader dans le domaine du web analytics, qui commençait à arriver. On a racheté cette société parce qu'on commençait, nous, à prendre le virage du marketing, mais surtout, on a racheté cette société parce qu'il y avait des compétences de développement dans le cloud. Et cette compétence dans le cloud nous a été utile et très importante pour pouvoir justement développer ces nouvelles plateformes qui sont devenues le Creative Cloud, Document Cloud et Marketing Cloud.
Okay.
D'ailleurs, pour la petite histoire, Omniture était basé à Salt Lake City. Et c'est là où on a installé notre campus de développement et de recherche et développement autour du cloud. On a aujourd'hui 2500 ingénieurs et techniciens qui travaillent là-dessus et qui vont travailler justement sur ce que moi j'appelle la cloudification de notre plateforme. Gros changement à ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que le challenge pour Adobe, c'est effectivement de faire bouger ce paquebot et de faire en sorte que ce paquebot passe d'un mode de « je vends des licences via des revendeurs et je vends des licences directement au client final et il l'achète, il l'installe » à un mode « je propose un abonnement, donc un droit d'usage aux utilisateurs. Et ça, il a fallu que l'ensemble de la société fasse ce virage, et pas uniquement 2-3 personnes dans son coin. Je pense que c'est ça, en fait. Si je devais apporter un premier conseil, c'est faire en sorte que c'est l'ensemble de l'entreprise qui opère ce changement, et pas uniquement quelques équipes dans leur coin, sinon, en fait, ce changement.
Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, en fait, ce qu'on voit souvent, c'est que les entreprises, les grosses boîtes, ou en tout cas les comités de direction de ces boîtes, ils font de l'évolution à la marge. C'est-à-dire que oui, ils restent dans la tendance, ils vont utiliser le web, ils vont communiquer sur YouTube, etc., etc. Mais ils font pas des transformations majeures. Et on l'a vu, on en parlait un petit peu avant avec BlackBerry et Nokia qui n'ont pas su justement faire cette transformation majeure, c'est-à-dire qu'ils ont amélioré à la marge, mais ils n'ont pas fait cette transformation majeure. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que si tu la fais pas, et c'est compliqué de la faire, ben, en fait, tu peux en mourir.
En fait, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas forcément le changement qui est compliqué, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut l'opérer, quand est-ce qu'il faut le démarrer, quand est-ce qu'il faut prendre la décision de se dire « on change maintenant ». Dans notre cas, quand on a opéré ce changement, et quand on a décidé de changer ça, donc c'est entre 2005 et 2007 et 2009 à peu près, pendant 4 ans, il y a eu cette décision qui a été prise, tout allait bien. Notre business se portait très bien. Ça veut dire que Photoshop se vend bien, les solutions, la Creative Suite se vend très bien, on est sur des marges très confortables, on a une marge opérationnelle d'à peu près 25%, donc
tout va bien.
Arrive 2008, une année un petit peu difficile, la crise bancaire, malgré tout, tout va bien. Et c'est là en fait que Shantanu Narayen, notre CEO, a décidé de faire ce virage. Il a eu cette vision, il a osé, parce que je pense que c'est aussi c'était assez ambitieux et très audacieux de pouvoir le faire. Et il a décidé d'opérer ce virage-là. Il a surtout décidé que l'ensemble de l'entreprise allait opérer ce virage.
Ouais. Et ça, c'est intéressant, tu vois, ma toute première boss, quand j'ai commencé ma carrière, elle m'a dit, Greg, le truc qui est le plus compliqué dans une carrière, finalement, c'est de partir quand t'es tout en haut, de partir au top. Avant, en fait, ce qui est compliqué, c'est de trouver ce tipping point, donc ce point d'équilibre où tu sens que t'es au niveau, t'es tout en haut, parce que tout ce qui peut se passer après, c'est redescendre. Donc, il faut te réinventer à ce moment-là. Et c'est ça qui est compliqué. Soit quitter ton job, soit réinventer le job, ou etc., etc. Et pour les entreprises, c'est la même chose. Et c'est ce que, généralement, les boîtes n'arrivent pas à faire, et ce que vous avez réussi à faire, et c'est ça qui est intéressant.
Donc, c'est ce qu'a fait Shantanu avec son board, c'est d'expliquer aux analystes financiers que le changement allait également impliquer un changement en termes de business model, donc un impact sur le revenu, donc un impact également sur la marge. Il a joué la transparence. Donc, il a expliqué au marché que le chiffre d'affaires allait baisser pendant 2 à 3 ans, que la marge opérationnelle allait se réduire pour qu'ensuite, il y ait un nouveau point d'infléchissement pour repartir à la croissance positive. Et alors, le principe de la croissance positive est assez intéressant d'ailleurs, peut-être qu'on pourra en débattre plus tard. Donc retrouver cette croissance, ça avait été annoncé avant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est exactement passé ce que Shantanu, avec son board, avait annoncé et avait prévu. Ça veut dire qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires. C'était tout le changement en fait, où il fallait accompagner nos clients, les consommateurs, le marché, pour accepter ce changement. Et crois-moi, ce n'était pas facile. Il y a eu des pétitions, il y a eu des, bien évidemment des communautés qui étaient contre ce changement. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, à accompagner ce changement. Néanmoins, aujourd'hui, les bénéfices proposés par ce changement sont tels que on assiste à une très forte croissance côté Adobe. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, l'action, elle est passée quand même de $50 à plus de $170 aujourd'hui. Ouais. Donc c'est vraiment le marché l'a pris, les marchés pas financiers, mais les marchés de nos clients, des entreprises, ont accepté ce changement et on trouve les bénéfices aujourd'hui.
Alors du coup, donc, si je récapitule, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a un, avoir de la vision du CEO et avoir le courage de faire une vraie transformation quand tout va bien. Je pense que c'est le premier point. Et je pense que ça, c'est un conseil pour les CEO, c'est d'avoir ou de se faire accompagner ou de suivre l'évolution du marché et de savoir transformer de manière massive l'entreprise. Deux, ce que tu as dit, c'est d'emmener tout le monde, c'est-à-dire de trouver la bonne communication financière, d'abord évidemment pour les actionnaires et pour les marchés, mais aussi interne. Pour aussi les clients. Donc ça fait trois typologies de types de communication pour les emmener avec toi. Le troisième truc que tu as dit, il me semble, c'est ne pas suivre les clients, parce qu'en fait, quand tu as des clients qui font des pétitions pour que tu ne changes pas.
Alors, il faut les écouter.
Il faut les écouter, bien sûr.
Il faut entendre ce que les clients nous disent.
Ouais.
Mais quand nous sommes convaincus qu'il faut aller d'un point A à un point B, il ne faut pas changer de cap. Et je pense que tenir le cap, c'est ça que tu as envie de dire, c'est tenir le cap.
Ouais.
C'est sans doute la chose aussi, une des choses les plus difficiles pour un entrepreneur, pour un patron d'entreprise, c'est de se dire ne pas réagir trop rapidement. Ne pas réagir trop rapidement.
Moi, je crois que c'est hyper important d'écouter les clients pour l'amélioration de ton produit. Mais pour ce qui concerne la vision, il faut que ça reste
une vision d'entreprise.
Une vision d'entreprise. C'est typiquement ce que Gap a raté quand ils ont transformé leur logo et que les clients leur ont dit non, on ne veut pas que vous changez de logo, on ne veut pas que vous changez d'image, on veut pas que vous... Et maintenant, aujourd'hui, ils sont, c'est quelques années plus tard, mais ils sont dans une situation qui est compliquée.
Alors, sauf que je ne ferai pas de commentaires sur Gap, sachant qu'on est quand même dans un environnement plus B2C, et ce qui est un peu différent dans l'environnement B2B.
C'est juste pour dire que quand tu écoutes trop tes clients sur de la vision, ça ne marche pas. C'est quoi les autres conseils ou est-ce que tu peux peut-être approfondir ces conseils quand on fait cette transformation, parce que je pense que pour les gens qui écoutent, qu'ils soient directeur marketing ou même ils ont des positions marketing dans l'entreprise, ça peut les intéresser de comprendre comment une grosse structure, parce que ces boîtes-là vous disent oui, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point on est gros, c'est compliqué, etc. Donc oui, certes, c'est compliqué, et en même temps, c'est indispensable quand on voit l'exemple de Nokia ou BlackBerry qui ont eu des petits soucis à pas vouloir se transformer parce que justement le business allait bien. On en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'après le lancement de l'iPhone, Nokia, ça se portait bien. Pendant 2 ans, ça s'est bien porté.
Enfin, malgré tout, il faut quand même avoir une vision.
Donc, mais voilà.
Si on n'a pas quelqu'un qui se trouve en haut de la pyramide, en haut de l'organisation, qui n'a pas de vision, l'entreprise ne pourra pas se transformer.
Est-ce que tu connais son secret pour avoir la vision?
Non, mais je pense qu'effectivement, on a quelques patrons d'entreprise qui sont visionnaires. Et d'ailleurs, tous les patrons des startups ou même des grosses PME, même des entreprises du CAC 40, il y en a beaucoup qui ont une vision. Après, il faut s'en donner les moyens. Je pense qu'une des clés de la réussite également.
Il y a un truc aussi, je te coupe, mais aux États-Unis, les CEO, c'est la culture, ils n'hésitent pas à avoir des gens qui les conseillent.
Alors, c'est exactement le point que j'allais couvrir.
Ah, pardon,
c'est qu'il ne faut pas rester seul.
Ouais.
Il ne faut pas rester
seul.
C'est pas la culture en France. Il faut s'accompagner des bonnes compétences. Quand nous, on a racheté Omniture, il y avait vraiment dans la vision de la direction, c'est d'acquérir des compétences pour le cloud. Sans ces compétences-là, on n'aurait jamais réussi à faire ce virage technologique.
Bien sûr.
Ces compétences n'étaient pas natives dans l'entreprise, donc il a fallu les acquérir ou les faire venir.
Ouais.
Donc ça, c'était le premier point. S'assurer qu'on a les bonnes compétences pour pouvoir assurer sa transition. Deuxième point, c'est toujours être accompagné. Ça veut dire que la vision que l'on a en interne et la vision que peuvent avoir d'autres entreprises de manière externe, comme par exemple des sociétés de conseil ou autres, nous enrichissent. Nous enrichissent dans notre réflexion, dans notre manière en fait, d'engager ce changement.
Ouais.
Donc voilà, deux conseils, c'est acquérir les compétences et ne pas rester seul. Et les compétences s'acquièrent de manière régulière. Ça veut dire que si je devais regarder le marketing que je fais aujourd'hui et que mes équipes font aujourd'hui, le marketing que l'on faisait il y a 10 ans, ça n'a plus rien à voir.
Bien sûr.
Donc il a fallu se réinventer. Il y a des équipes qui sont relativement stables, mais il y a des gens en fait que l'on a recrutés également. Donc des nouvelles compétences qui viennent de l'extérieur et nous-mêmes qui avons dû, bien évidemment, nous réinventer pour faire en fait des nouvelles formes de marketing. Ça, je pense que c'est fondamental pour les entreprises. Accepter ce changement, acquérir des nouvelles compétences et ne pas marcher seul.
Et aussi, quand on acquiert des nouvelles compétences, et parce que j'ai vu beaucoup de... Et on voit énormément aujourd'hui de grandes entreprises qui rachètent des startups ou qui rachètent d'autres structures, ils essayent de les... En fait, plutôt que d'apprendre d'eux, ils essayent de les intégrer dans leur modèle à eux. Alors du coup, ça fonctionne pas bien.
Alors, ce qui est parfois un peu compliqué, je pense que l'avantage en fait d'une start-up, c'est l'agilité, c'est la flexibilité, c'est la réactivité, c'est l'innovation. C'est vrai qu'essayer d'intégrer une start-up dans une grosse structure, assez rapidement, on la noie. Mais bon, après, ça, c'est les enjeux de chaque entreprise.
D'accord.
Je pense qu'il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est lorsqu'on fait ce changement, lorsqu'une entreprise change son business model, change son organisation, change forcément son image, elle doit être préparée à raconter une histoire. Et ça, c'est un gros travail qui doit être réalisé par l'ensemble de l'entreprise. Quelle histoire on raconte à nos clients, à nos partenaires, à notre écosystème, à nos investisseurs financiers et en interne également. Quelle histoire on raconte ? L'avantage que je vois, en fait, en tout cas l'expérience que j'ai chez Adobe, c'est que l'histoire, notre histoire, on l'a racontée très rapidement. On a expliqué pourquoi on y allait. Quels allaient être les avantages pour Adobe, quels allaient être les avantages pour les clients. On a raconté cette histoire parce que c'est basé dans notre ADN, la création numérique. On existe depuis 35 ans maintenant, donc la création numérique, ça fait partie de de nos racines. Et donc on a raconté cette histoire pour embarquer le plus de monde possible. Si on n'a pas une histoire à raconter, on n'arrivera jamais à embarquer justement cet écosystème dans notre transformation.
Mais ça veut dire aussi ne pas se contenter de s'appuyer sur la manière dont tu gagnes de l'argent, mais bien de repartir sur ton ADN, c'est-à-dire ton sense of purpose, ta raison d'être, etc.
C'est exactement ça. L'autre chose, c'est que nous, on est une boîte bien évidemment éminemment technologique.
Bien sûr.
On développe énormément de technologies d'innovation, mais on n'a pas tout basé dans notre histoire, on n'a pas tout basé sur la technologie. On a parlé d'émotion, on a parlé d'expérience, on a parlé de création, d'innovation, de design, ce qui est vraiment autre chose que parler purement technologique. Donc effectivement, le cloud était très important, c'est un changement radical de comportement, mais on a surtout embarqué tout le monde avec nous, avec cette histoire. Voilà. Donc si je devais donner un conseil supplémentaire, c'est réfléchissez à l'histoire que vous allez raconter, réfléchissez à l'image que vous allez donner et comment vous allez embarquer vos clients, votre écosystème, vos partenaires avec vous.
Et ça, c'est pareil, les boîtes américaines, je pense qu'elles sont vraiment plus fortes
peut-être
que les boîtes françaises
peut-être
à faire du storytelling. Il y a vraiment un truc.
Je pense qu'on est en train de changer quand même en France.
Oui, bien sûr, ça bouge.
Il y a beaucoup et ça, c'est quand même très agréable de voir ça. On parle de French Tech, on parle de... Voilà, il y a tout un tas de nouveautés qui arrivent. Moi, je suis assez... assez positif.
Moi, je suis toujours positif, hein, tu sais. Mais et donc juste pour conclure, il y a aussi la communication financière qui est importante. Donc les marchés. Et ce que tu disais finalement, c'est juste de la transparence et de l'histoire. Enfin, c'est l'histoire que tu racontes et la transparence.
C'est la transparence. Ne pas hésiter à expliquer que on va avoir à un moment donné une baisse d'activité, une baisse de chiffre d'affaires. On n'aime pas forcément parler d'un ralentissement de l'activité.
Non.
On a l'impression que c'est une forme d'aveu d'échec.
Ouais.
Mais si c'est reculer pour mieux sauter, je pense que dès lors qu'on présente bien et qu'on, bien évidemment, on tienne nos engagements,
bien sûr,
ça ne peut être qu'un vrai succès.
Oui, parce que souvent on essaie de tenir la barre, justement, tu parlais tout à l'heure de tenir la barre, mais on essaie de tenir la barre de la marge à tout prix. Jusqu'à tuer son business, quoi. Enfin,
Ce que n'aiment pas les marchés, c'est pas les augmentations ou les baisses, c'est la visibilité.
C'est ça.
Ils n'aiment pas les surprises. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, Les marchés financiers n'aiment pas les surprises. Ouais. Au même titre que, d'une manière générale, l'être humain n'aime pas être surpris.
Moi, j'adore. Mais bon.
Ça dépend sur quel sujet, ça dépend dans quel domaine. Mais voilà, les surprises, en fait, n'ont jamais été bien appréciées, en tout cas des marchés financiers. Donc, il faut donner la visibilité, une transparence sur ce qui va se passer. Et dès lors qu'on le fait et qu'on s'y tient, avoir une forme en fait de prédictabilité, c'est la clé du succès.
Et dernier point, quand même, c'est la structure des équipes, parce que j'imagine que quand tu fais une transformation comme ça, ça joue aussi en interne sur la manière, le métier des gens, en fait, bêtement. Que ce soit déjà les commerciaux parce qu'ils vendent plus la même chose, mais aussi, je pense, dans la structure. Comment ça s'opère ça ?
Alors, ça s'opère en embarquant dans ce changement l'ensemble des managers, l'ensemble des responsables d'équipe. Dès lors qu'on a une personne qui encadre d'autres personnes, cette personne-là doit devenir un leader de cette transformation. Donc il y a eu des plans d'information, de formation, d'éducation de l'ensemble des managers à tous les niveaux, à tous les strates de l'entreprise.
D'accord. Donc ils ont fait ça hiérarchiquement ou ils ont créé une sorte de pool
Ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'en fait, les grands directeurs de branche ont travaillé avec leur première ligne, qui ont eux-mêmes travaillé avec leur première ligne, etc. Donc il y a une forme en fait de communication. On a distillé ce changement, on a distillé cette culture du changement au sein de l'entreprise. Ça veut dire qu'on a recruté des nouvelles personnes, mais on a accompagné le changement auprès des personnes déjà existantes. Ouais. Et en fait, Adobe a grossi en termes de nombre d'employés. Moi, quand je suis rentré chez Adobe, on était franchement loin d'être 17 000. Hein. On était vraiment tout petit. Et c'est au travers également d'acquisitions où on a intégré des nouvelles équipes qui ont insufflé en fait un vent nouveau, des nouvelles compétences, ouais. Et qui ont toutes adhéré à ce changement.
D'accord.
On a fait pas mal d'acquisitions et ces acquisitions ont été parfaitement bien intégrées. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments d'écueil, etc. Mais aujourd'hui, c'est un vrai succès. Et c'est ce qui fait un petit peu la force de...
Et du coup, vous êtes toujours dans cette culture de changement aujourd'hui ? C'est-à-dire, parce qu'en fait,
En permanence. On parle en fait souvent des process de l'amélioration continue. Ouais. Eh bien, c'est le process du changement continu. Mais ça devient une culture.
Ouais.
Ça devient une culture. Ça veut dire que, encore une fois, le marketing que l'on fait aujourd'hui et le marketing que l'on faisait même il y a 2 ans, c'est pas le même, ouais. Ça n'a plus rien à voir. On cherche systématiquement à innover. On a une manière en fait de procéder dans toutes les activités que l'on mène, notamment dans les équipes marketing, ouais. C'est de se dire, à chaque fois que je fais une activité, même si elle a déjà été faite auparavant, je fais quelque chose de nouveau. Je lui rajoute quelque chose de nouveau. J'innove, je rajoute une nouvelle manière de pouvoir s'engager avec des clients, une nouvelle histoire, un nouveau contenu, un nouveau média, une nouvelle manière de s'inscrire à un événement, par exemple, tout simplement. Ouais. On rajoute toujours des choses nouvelles. Et on est prêt. Au moment où il y a une plus grosse disruption, un plus gros changement, on est prêt parce qu'on s'est rentré, c'est ancré dans notre culture générale, dans la mémoire collective de l'entreprise.
Super. Merci beaucoup. Et alors, juste pour conclure, donc quand même, parce que ce podcast s'appelle Vlan, et donc je pose toujours la même question, qui est, si tu devais donner un Vlan aujourd'hui à quelqu'un ou à quelque chose, à quoi tu mettrais un Vlan ?
Quelqu'un, je ne me permettrais pas, non. Mais... Il y a quelque chose, un vrai Vlan, un vrai Vlan, quelque chose qui m'énerve bien et que je vis régulièrement et que je pense qu'on vit tous régulièrement. Ouais. Ce qu'on appelle du mauvais retargeting.
Ouais.
Donner un exemple. Je suis parti avec mon épouse, on a fait un super voyage en Amérique latine et j'ai fait effectivement beaucoup de recherches sur ce voyage-là. J'y suis allé, on est parti 15 jours, c'était super génial. Et une fois à mon retour, eh bien, j'ai eu pendant 3 semaines et 4 semaines des publicités pour aller à l'endroit où je venais de passer 15
jours. Oui, bien sûr.
Ça m'énerve. Ouais. On parle souvent de personnalisation, on parle souvent de belles expériences. Ouais. Ça, c'est typiquement ça à l'opposé de la bonne expérience.
Relationship management.
C'est dramatique. Voilà. Donc là, un gros Vlan sur ces fameux, ce gros fail, ce retargeting en fait de très mauvaise qualité.
Mais qui est fait de manière, enfin, on le vit tous en permanence. Hein.
Oui, puis automatisé,
c'est normal. C'est
clair.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.